Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC. Le grand oral des grandes gueules.
Bernard Tapie, le son de vie, de mort et d'amour aux éditions Presse de la Cité. Fogg, bonjour.
Bonjour, bonjour. Vous avez signé ce livre de confidence avec Bernard Tapie. Je crois que ça a duré 6 années. Et étonnamment, Bernard Tapie, qui pourtant est un beau parleur, un grand parleur, il parle très peu de lui en général.
Donc, c'est pire que ça, il déteste.
Il déteste. Ouais. Et donc, tout le boulot était de le faire parler de lui intimement. Et vous dites, avec ce livre, on va voir que Bernard Tapie n'est pas celui que l'on croit. Et ça veut dire quoi, ça ?
Eh ben, par exemple, typiquement, il passe pour quelqu'un d'extrêmement égocentrique. Et quand on le connaît, quand on le fréquente, on se rend compte que toutes les questions personnelles, dès que c'est personnel, mais il ne peut pas en parler. Alors, bon, j'ai réussi l'exploit, entre guillemets, je ne veux pas me faire trop mousser, de le faire parler, par exemple, de choses dont il ne parle absolument jamais, son rapport à la religion. Mm-hmm. Il est très croyant, mm-hmm. il prie tous les jours.
Il parle avec Dieu.
Parfois 5 minutes, parfois plus. Il parle tout seul, il n'a pas de réponse. Mm-hmm. Il ne demande rien de particulier, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais bon, il prie, c'est quelqu'un qui prie. Les rapports avec les animaux sont complètement dingues, il n'en parle jamais, mais on se rend compte, je dis, brusquement, il est sur un dossier, un truc très important, et puis il y a un téléphone d'un chenil ou un truc comme ça, les brusques. Et on se rend compte, voilà, il est en train encore d'adopter un chien, parce qu'il a beaucoup de chiens, il avait sa maison, toujours sa maison de Comble-la-Ville, qui est une sorte de refuge d'animaux, d'où d'ailleurs sa fascination pour Brigitte Bardot. Parce que, voilà, il y a des tas de petites. Mais puis par exemple, tenez, une histoire incroyable aussi, Zora, la petite marocaine. Oui. Mm-hmm. Il tombe sur une petite. Enfin, qui lui écrit une lettre. En disant, voilà, je suis très malade, voilà, elle est dans stade terminal d'un cancer, elle est à Boulogne-Billancourt, c'est une ado, et avec sa femme, ils sont tellement émus, là, il va la voir avec Dominique à l'hôpital de Boulogne-Billancourt. Et là, ils sont tellement émus, ils lui proposent, venez, venez. Et ils apprennent, avec l'accord des parents, bien entendu, qui sont dans l'Est et qui n'ont pas trop les moyens, et ils vont lui donner, plusieurs mois de bonheur.
Presque une famille d'accueil.
Ils vont l'emmener en vacances au Maroc, parce qu'elle est marocaine d'ailleurs. Et puis ils vont l'emmener au sport d'hiver. Enfin, elle va être traitée. Et ça, par exemple, jamais il m'en parle. C'est par la bande, j'apprends ça en parlant avec Laurent Tapie, son fils, enfin de ses fils, de ses deux fils, et qui me raconte l'histoire. Et je dis c'est formidable. Je vais lui en parler à Tapie, mais il me regarde avec une gueule. Enfin, où est-ce que j'ai appris ça? Mais ça me concerne pas. Mais j'ai pas le droit de savoir. Enfin, etc. Bon, puis finalement, il s'est ouvert un peu. J'en savais déjà assez long pour pouvoir écrire l'histoire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'aime pas parler de lui.
Alors c'est un livre testament, en fait, qu'il a commencé ou pas?
Non, ça je crois pas du tout, parce que c'est pas passé comme ça, c'est une complication. Faire un
livre, mais vous avez dit 6 ans. Sur ces 6 années, il y a la maladie qui est arrivée.
Mais il y a des ruptures énormes, parce que j'ai dit, mais attends, moi je veux pour faire un bouquin avec toi, tu réponds aucune question, il veut parler du chômage, ses solutions pour l'emploi. Je lui dis, attends, trouve un autre couillon, moi ça va, ça m'intéresse pas du tout. On a envie plutôt de ta légende, parce que Tapie, c'est un roman d'aventure, c'est un mythe, c'est un grand mythe français. Il accompagnait les Français pendant 50 ans. Hein,
il y a
Johnny Hallyday, il y a Bernard Tapie, on peut dire presque. Enfin, c'est énorme. C'est avec comment dire, quand je dis un roman d'aventure, c'est qu'il y a des ascensions dingues, des chutes vertigineuses. C'est la guerre, c'est des combats permanents, le combat contre la justice, le combat contre le cancer. Donc oui, il fascine les gens. Il fascine les gens et aussi, surtout, je crois, il a fait rêver. Il a fait rêver, vous savez, les gens de peu. Il vient d'un taudis, d'un petit taudis où il était élevé, en Seine-Saint-Denis, un gamin, un gavroche du 93. Et puis, il a découvert à l'armée, c'est peut-être intéressant d'ailleurs sur l'armée, c'est un service militaire qui se découvre. Il dit, mais finalement, je suis peut-être moins con que tous ces gosses de riches, là, parce qu'il a filé chez les officiers, on l'a mis chez les officiers, l'école des officiers, et puis il s'est dit, mais qui, au début, il n'a pas voulu la faire, il a fait. Puis il s'est dit quand même, peut-être que je vaux quelque chose. Et puis là, brusquement, voilà, il se lance dans les affaires. Et surtout, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que quand vous regardez, on dit toujours Tapie les mille vies, ça, c'est un des grands clichés, et qui est juste d'ailleurs, parce qu'il a
dit. Il a eu plein de vies.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais quelque chose de calculé. C'est-à-dire, c'est les gens qui viennent à lui, on lui propose, ah tiens, il fait. Mais... Par exemple, Bernard Arnault, c'est lui qui va voir Tapie, il est au fond du trou parce que son équipe ne veut plus lui, Cyril Guimard, il ne s'entend pas avec lui. Bon, bref, il a gagné déjà plein de Tours de France. Et puis, bon, il a un sale truc, une tendinite épouvantable. Bon, il va voir Tapie pour dire, vous ne pourriez pas faire une équipe avec la Viclaire. Et l'autre se dit, ah bah oui, j'ai Bernard Hinault dans mon bureau, c'est formidable, on va faire ça. Et il va donner, bah, ce sera la dernière fois qu'un Français va gagner le Tour de France avec les couleurs de Bernard Hinault.
Ce que vous avez dit là, France, et moi je trouve juste, c'est ce qu'il y a de plus fascinant avec ce personnage qu'est Tapie, c'est ce côté qu'il donne du rêve en fait. Qu'il a donné du rêve. Ouais. Il a donné du rêve aux Marseillais.
C'est-à-dire, disent aux gens, on peut le faire, on peut le faire.
Même en politique, là, au moment où
vous avez raison.
Il est rejeté.
Vous avez raison.
Voilà. Ouais. Quand il était ministre, il a donné du rêve en disant, tiens, ce type-là, il va se passer quelque chose.
Et c'est ça, je pense que c'est sans doute ça peut-être le plus fort.
Ouais.
C'est-à-dire que je vois l'amour qu'il y a pour lui. Alors, bon, maintenant, c'est évident aujourd'hui. Oui, mais même encore, il y a 6 ans, 5 ans, quand j'ai commencé, bon, les confrères me disaient tous, mais comment tu fais? Mais comment tu fais ça? Mais comment tu oses faire ça? Bah, je dis, moi, ça m'intéresse. En plus, je pense que c'est quelqu'un, il y avait le côté, comment dire, redresseur de tort. Moi, j'aime bien, quand dans mon métier, le côté justicier et aussi le côté redresseur de tort. C'est-à-dire que je trouvais que le système a été dégueulasse avec lui. Et d'ailleurs, on voit encore aujourd'hui, c'est dégueulasse. Ce que fait la justice est dégueulasse.
Pourquoi c'est dégueulasse?
Regardez le dossier Adidas 5 minutes, on voit qu'il a été lésé. Bon, ben la justice a réussi de retrouver un truc.
Parce que la justice est derrière l'État, puisque la justice.
Voilà, exactement.
Ne veut pas lui donner le dernier mot, en fait.
Exactement. C'est-à-dire que tout ça, c'est de la politique. C'est-à-dire qu'il a gagné tous ses procès quand c'était la droite. La droite qui, auparavant, a essayé de la battre. Hein. Ça a été vraiment le grand ennemi de la droite. C'est elle qui comment dire, plante les premières banderies. Et brusquement, la gauche passe en 2017. Enfin, après la défaite de Sarkozy, 2012, pardon, excusez-moi. Et là, à ce moment-là, brusquement, il va commencer à perdre tous ses procès. Bon, attendez, avec sa copine Taubira, qui est son ex-copine, qui l'a quand même beaucoup poussé quand elle était au radicaux de gauche, lui-même étant au radicaux de gauche, qui évidemment, pour se donner une virginité, est extrêmement violente contre lui, en cachette, bien entendu. François Molins, lui, il a été nommé carrément procureur, pratiquement nommé par Sarkozy, il faut qu'il fasse oublier ça. Donc voilà, donc il va...
C'est une justice politique.
Mais c'est une justice... on a en France une belle justice, parce qu'il y a toujours des grands juges. Attendez, comme journaliste, comme patron de journaux, j'en ai vu beaucoup, parce qu'il y avait souvent des procès en diffamation, et franchement, j'étais souvent impressionné par la qualité de ces juges. Mais il y a aussi, à côté, une justice politique. Alors, la justice du mur des cons, elle existe, et elle existe même au sommet. Donc, vous avez un système, ce que Nietzsche appelle les monstres froids de l'État, qui ont essayé de l'abattre pendant des mois et des mois. Moi, franchement, j'aurais pas tenu comme ça. Quand je le voyais faire, avec ses réunions d'avocats en permanence, attendez, quand on arrive à un certain âge, allez, on file dans le sud, on va prendre des
pas lâcher. Non, c'est
on
un patron, il n'a jamais voulu lâcher.
On va lâcher, mais il ne lâche pas.
Alors, question, Joël Dagosséry.
J'ai énormément aimé votre livre. Déjà, j'aime beaucoup Bernard Tapie, mais là, avec votre livre, encore plus, si c'était possible. Pour moi, c'est une sorte de héros. J'aime pas trop rêver à des choses qui sont inaccessibles. Pour moi, c'est le héros accessible, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'en bas, du 93, moi je viens du 93, et qui réussit par lui-même. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'en France, on sait traiter ce genre de personnes. Il me semble que, par exemple, dans une société anglo-saxonne, c'est quelqu'un qui aurait eu un aura encore plus grand, un impact encore plus grand sur la société. Est-ce qu'en France, on sait très bien, on mesure la portée d'un tel personnage comme Bernard Tapie? Est-ce qu'on sait en faire quelque chose de grand, même pour le pays?
C'est un Trump avant l'heure, c'est un Trump français.
D'une autre façon, parce que Trump, c'était un fils de famille, quand même.
La
légende de Trump, Self-Edman,
la réussite, l'utilisation des médias.
Tout à fait, c'est tout à fait. Il y avait ça.
Tuer ce genre de personnage, justement, en France, là où peut-être les Américains auraient plutôt tendance à le mettre en haut. Est-ce qu'on n'a pas envie de tuer ce genre de personnage?
Vous avez raison, moi j'ai assisté parce que. Comment dire, la biologie fait que je suis assez nettement plus âgé que vous, et j'ai vu quand il commençait à monter l'espèce de haine aussi qui montait en même temps, qui était complètement délirante et injustifiée, quoi. Alors moi j'étais pas un tapiste du tout, j'étais pas un tapiste parce que moi je suis un salopard de journaliste, et donc allez, on donne un coup, après on dit bonjour, on fait un sourire, voilà, c'est comme ça. Donc j'étais, mais il y avait une haine, une violence, une hystérie, quoi.
Il n'était pas du système.
Voilà, exactement. C'est le self-made man. Et vous avez raison, c'est-à-dire le self-made man aux États-Unis. Je sais pas les grands self-made man. Il y en a Warren Buffett, par exemple. Buffett, ce sont exactement. Des gens. Il y a presque la statue au milieu du village parce qu'ils ont réussi envers et contre tout. Et lui, on a l'impression, voilà, tout le monde, enfin une grande partie du système, pas tous, c'est vrai. Mais il disait, allez, retourne dans ton taudis de la Seine-Saint-Denis au Bourget. T'as rien à foutre ici. Retourne chez toi. T'es pas ici chez toi.
Il le dit dans le livre à travers vous. Le système est complètement bloqué comme au temps de l'Ancien Régime. C'est pourquoi tout finira par sauter. Et il condamne justement l'entre-soi de ces élites nulles et pourries qui justement n'ont jamais accepté, il le dit, que moi j'ai un, de là d'où je viens, que j'ai réussi à avoir un hôtel particulier. Et vous sentez aussi cette société un petit peu d'Ancien Régime où il y a des élites qui flippent un peu là-haut, qu'on pourrait venir leur prendre leurs privilèges.
C'est une histoire très ancienne en France. Il y a par exemple le livre de Michel Crozier, le sociologue à l'époque, s'appelait La société bloquée, vous avez un espèce de blocage, un système de caste et qui est hérité de la monarchie ou de je ne sais, enfin je veux pas faire comment dire une analyse parce que c'est je caricaturerai, on a quelques mots pour le dire, mais on voit très bien que historiquement la France elle est est organisée en segments et que c'est très difficile d'aller d'une case à l'autre, de passer d'un tiroir à l'autre, on veut vous remettre toujours dans le même tiroir. C'est ce qui est arrivé à lui, c'est ce qui arrive d'ailleurs la plupart des self-made man. Je suis toujours étonné par la réaction des confrères, il faut bien le dire, allez on va balancer un peu sur, dès qu'il y a quelqu'un qui sort un peu du lot et qui vient d'en bas, on explique qu'il vient de nulle part et qui fait fortune, on explique qu'il vient de nulle part et tout de suite immédiatement c'est pas net, etc. Ce qui est totalement c'est français, ça vous avez raison, moi je suis d'accord avec vous là-dessus, c'est totalement français. Or il a évidemment énormément souffert de ça. Bon, en même temps on peut pas le plaindre parce que au démarrage les ennemis ne sont pas si nombreux. Moi, je pense que, et puis c'est surtout
quand il commence à faire la politique.
Ce qui est terrible, c'est voilà, c'est ça. Quand il y a la politique, alors ça devient violent.
Oui, bien sûr.
Dès qu'il arrive en politique, c'est des mises en examen. La juge Jolie, il la met en examen, attire l'arigot. Je dis la juge parce qu'elle était juge. Et puis, évidemment, tout ça se termine par autant de non-lieux et de relax.
Louis Boyard. Mais quelqu'un qui a aussi peu envie de parler de lui, pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, il se met à parler de choses aussi personnelles? Pourquoi?
Parce que je pense que c'est mon métier, j'ai appris depuis longtemps le côté, vous savez, l'inspecteur Colombo. Je dis, c'est lieutenant Colombo, pour moi, c'est un modèle. C'est-à-dire poser toujours les mêmes questions. Okay. Avec un air abruti, si besoin. J'ai appris très vite, c'est Mitterrand qui me disait, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants les journalistes, toujours en train de parler d'eux. Donc, j'ai toujours été ici d'être quelqu'un qui était agréable, c'est-à-dire qui parle pas de lui, qui parle beaucoup, qui raconte des histoires. C'est toujours ce que j'essayais de faire et j'ai marqué que ça fonctionnait. C'est-à-dire que d'abord, on ne soit pas, comme on dit aux États-Unis, pain in the neck, c'est-à-dire vraiment le grand truc chiant là qui vient. Il faut que d'abord l'interlocuteur soit intéressé quoi par vous. Et puis ensuite, il faut poser souvent les mêmes questions. Et puis à la fin, vous tirez la pelote parce qu'il y a brusquement, il y a un petit bout de laine là, qui sort et là, vous tirez et puis vous avez l'histoire. Par exemple, c'est vrai que sur Dieu, c'était pas évident. C'est-à-dire, je pense que c'est la première fois que j'en ai parlé. Je pense que je me suis fait renvoyer dans les cordes et je suis revenu.
Oui, parce que vous lui dites d'ailleurs, dans le dialogue, vous lui dites à propos de sa maladie, c'est un tutoiement, hein, vous dites à Tapie, est-ce qu'il t'arrive d'évoquer ton cancer avec lui? C'est-à-dire de parler de ta maladie avec Dieu, il dit forcément, je compte sur la médecine, bien sûr, mais je te dis la vérité, sans lui, je ne peux pas gagner ce combat.
Ah oui, c'est-à-dire, mais je crois que c'est quelqu'un qui, vraiment, il est croyant, il vit avec Dieu, quoi. Vous savez, ces grands cathos qui vous disent, ou chrétiens qui vous disent, Dieu m'accompagne, quoi. Je pense qu'il vit comme ça.
Comment va-t-il?
Je l'ai vu il y a une demi-heure, ça pas terrible, non. C'est compliqué, quoi, c'est tout. Mais il se bat. Ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que, je devrais pas parler comme ça, d'ailleurs, quand je dis, même quand ça va pas, il se bat. Il n'est pas du tout là. Il était à l'hôpital. Il était en train de se faire traiter. Voilà, il est toujours au combat. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire, il ne lâche jamais rien.
Mais justement parce que vous le montrez bien dans le livre. Il est toujours projeté complètement dans l'avenir. C'est-à-dire,
c'est peut-être pour ça
d'ailleurs qu'il a jamais voulu vraiment parler de lui parce que le passé, ça l'intéresse pas.
Absolument.
Et on voit qu'il est toujours projeté dans l'avenir et même dans cette maladie qui est terrible et qui, où il a sans doute l'impression de courir après le temps, il se projette encore dans l'avenir. Et c'est en ça que c'est un personnage absolument, absolument fabuleux.
Oui, on n'en rencontre pas des comme ça. Moi, franchement, c'est ça qui est. Moi, il m'a toujours fait. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime, hein, je reconnais. Voilà.
Bon, mais, et vous avez Marseille en commun, tous les deux en plus.
Oui, oui, mais en plus, il est fascinant. Il est fascinant à cause de
c'est,
ça.
C'est quelqu'un qui n'est pas dans la nostalgie. Non. Donc pas dans les regrets, etc. Il va toujours de l'avant. Mais là, il y a son procès en ce moment qui se poursuit sans lui. Ça, c'est d'ailleurs assez aberrant. Sans lui, sans ses avocats.
Oui,
et
puis d'ailleurs,
il a un report.
Ils vont donner le jugement en octobre. Je sais pas pourquoi ils devaient le donner plus tôt. Vous voyez. Non, mais vous avez. Attendez sur le
quand
traitement
il le dit, ça,
parce judiciaire. Que, c'est dégueulasse.
J'ai l'impression quand même que c'est l'affaire de sa vie, ce procès à propos d'Adidas, et le fait qu'il puisse être sur place, c'était aussi l'occasion de se battre et de battre de combattre en même temps la maladie.
Mais là, il n'y est plus là. Physiquement, il a arrêté parce que d'abord il a eu un surgissement de tas de tumeurs. Il a fallu traiter ça de toute urgence parce qu'il est dans le combat. C'est le combat principal. Donc je voyais quand il a un problème, allez hop, on va à l'hosto, on traite le truc. Bon, c'est parfois violent. Il se fait opérer. Il a un truc au visage aussi. Et puis et voilà. Puis après le combat judiciaire passe après évidemment. Il y a le combat physique, c'est
extrêmement. Et en plus, il a été cambriolé violemment.
Ouais, ouais. Et puis surtout, ce qui est frappant, vous voyez, quand il va à l'hôpital, en général, il part avant, quoi. Il part tout de suite. Enfin, il reste un peu, le moins possible, toujours. Et on lui signe des décharges parce que. Puis il prend pas d'antidouleur. Moi, c'est ça que je trouve aussi incroyable parce que on a connu. Des cancéreux autour de nous, heureusement qu'il y a des antidouleurs. Lui, il ne prend pas d'antidouleurs parce qu'il veut être au contact, sentir les choses. Et il souffre parfois. Enfin, quand il parle avec vous normalement et on sent qu'il souffre à son visage, qu'il souffre atrocement.
Et justement, dans sa souffrance, souvent, la présence des animaux et de ses chiens, en particulier, notamment son chien Boboy, qui vient dormir avec lui
c'est
quand il est très malade et quand il sort de ses chirurgies, ça a donné un visage de Tapie que je connaissais pas
ça,
du tout.
Ça t'a touché particulièrement.
Eh ben oui, moi, les animaux. Enfin, je veux dire, ça a donné un visage à Tapie que je n'imaginais pas du tout. Je savais qu'il avait des chiens, mais je le savais pas à ce point. En rapport d'égalité avec ses animaux, et ça, j'ai trouvé ça assez remarquable.
Alors quand hier Boboy est mort, il va m'agonir s'il m'entend dire ça, mais c'est vrai qu'il chialait. Il chialait tout le temps. Ah, j'ai vu à quel point c'était important ce chien, parce que ce chien, en fait, qui était beaucoup plus proche de sa femme Dominique que de lui, quand il est tombé malade, ce chien ne l'a plus quitté, quoi. Et était toujours contre lui et ils dormaient ensemble, quoi. Et il essayait de prendre, comme souvent, enfin, c'est ce qu'on dit aussi des chats et des chiens, de donner de l'énergie, peut-être de prendre une part de la maladie, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il le collait comme ça en permanence et apparemment, ce chien, Boboy, lui a fait beaucoup de bien.
Merci François-Olivier Gisbert d'être passé par les GG. Bernard Tapie, leçon de vie de mort et d'amour. C'est donc une conversation, enfin 6 ans de conversation sur
C'était
Tapie,
dur, hein,
Bernard Tapie Intime, c'est aux éditions Presse de la Cité. Merci François-Olivier Gisbert.